16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël. Bon chaque jour, vous m'avez reconnu.
Oui.
Chaque jour, je vous accueille pour deux heures d'histoire décomplexée et rieuse autour d'un thème réunissant trois personnages de l'histoire. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre de trois grands mégalos en compagnie d'un quatrième, puisque la première fois que je l'ai rencontré, pour le flatter, je lui ai dit qu'il était le meilleur animateur français. Il m'a dit...
Oui, enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire, déjà.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je crois que c'est vous le mégalo.
Quelle langue de vipère.
Le mégalo d'Europe 1,
c'est évidemment, vous n'êtes qu'humilité Stéphane.
Bah, bien sûr.
En dépit du fait que vous êtes quand même le meilleur animateur.
Non, c'est pas vrai. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils l'étaient et ils sont encore complètement mégalo. Notez que sans cette mégalomanie, ils n'auraient peut-être pas fait la même carrière.
C'est vrai.
Je vous parle aujourd'hui de Tamerlan, chef de guerre qui avait une assez haute opinion de lui-même. De, alors, ça c'est une thèse nouvelle de Jeanne d'Arc.
Je me sens choqué par cette thèse, Stéphane.
Oui, un petit peu.
Je sens que vous ne l'assumez pas du tout. Inclure Jeanne d'Arc dans les mégalos de l'histoire, ça ne vous plaît pas.
Non, ça ne me plaît pas, mais je sais que c'est la thèse de Jean Tullard. Donc je
qu'on embrasse quand même.
Qu'on embrasse, oui, enfin, c'est pas très prudent.
Oui, non, évidemment.
De Jeanne d'Arc, donc, qui avait à sa manière le melon. Quant à vous, Mathieu, qui vous prendrez la responsabilité de vous attaquer à un mégalo encore bien vivant.
Et oui, Stéphane, le relais H d'Orly s'en souvient encore. Je vous parlerai de celui qu'on a peut-être, nous, du mal à comprendre, mais qui est l'idole de nombreux jeunes.
Sainte Thérèse de Lisieux.
Booba, Stéphane. Booba. Vous verrez, lui aussi, il est un peu mégalo. Alors, on essaiera de voir si c'est un jeu. Si c'est une posture ou si c'est
une imposture.
Oui, une imposture. Oui, ça, je vous laisse la responsabilité.
Et oui, je vais plus au relais depuis longtemps. Et dans notre équipe aussi, que des numéros 10, vous l'avez compris, chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, on raconte l'histoire sans se la raconter. Bon, un peu quand même, surtout avec. C'est, mais ils ont pris le boulard. Hein,
ils ont des exigences énormes maintenant.
Énorme. Ouais. Elle est la meilleure dans son domaine, celle qui a écrit cette phrase. Peut-être aussi parce qu'elle est la seule. Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte les petits secrets des grands noms qui ont marqué l'histoire. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu. Oui, vous savez ce que disait Voltaire ?
Il n'est pas
de grand homme pour son valet de chambre. Et c'est vrai que parfois, les grands hommes et les grands mégalos, eh ben, il ne fait pas forcément bon aller voir le petit côté de la lorgnette, le revers de la médaille. Et c'est le cas pour Clémenceau. Clémenceau eut d'innombrables maîtresses et avec son épouse Marie Plumeur, il fut d'un cynisme et d'une cruauté absolument effroyable.
Oh,
et vous allez tomber de l'armoire comme je l'ai fait en découvrant. Oui, allons-y.
Bonjour David Castello-Lopez. Vous avez la grossette, mais c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Surtout des questions et parfois des réponses.
Parfois.
Sur les origines d'un objet ou d'une passion cachée. Sur quoi vous avez enquêté aujourd'hui?
Bon, enquêter, faudrait peut-être pas exagérer.
Non, ne vous dévalorisez pas, mon grand. Vous avez enquêté.
Même si c'est vrai que je sors quand même régulièrement des beaux scoops qui passent tristement inaperçus.
C'est vrai.
Mais non, aujourd'hui, je vais vous parler d'un plat très méprisé. Hein, je vais peut-être marcher un tout petit peu sur les plates-bandes d'Olivier Pouls. Ce sera les nouilles ramen instantanées.
Il n'y a pas de danger, je me sens pas attaqué là.
Non,
je
vous le laisse. Lui s'occupe de la cuisine. Et là, on ne risque rien. Et avec nous, Olivier Pouls, justement. C'est pas la tête qui est la chose la plus grosse chez vous.
C'est le ventre. Un peu plus bas.
C'est le ventre.
Oui, bien sûr.
Vous nous racontez l'histoire de la gastronomie. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui?
Pas de ramen, mais moi je vous apportais le fromage. Vous allez avoir un délicieux fumet dans ce studio tout à l'heure. Je vais vous parler de l'histoire du camembert.
Oui.
Et puis je vous donnerai une petite recette amusante à faire et délicieuse évidemment.
Ah, c'est la bonne chose, c'est le camembert.
Non, Mathieu, excusez-moi, mais j'ai un peu plus de compétence. Dans ce que vous, en
ça commence bien. Enfin, en matière de connaissances historiques, vous avez toujours placé Stéphane Bern sur un piédestal.
Pour vous,
c'est un érudit qu'il est impossible de prendre en défaut, comme dirait Clémentine.
Moi, j'ai des doutes, excusez-moi.
Oui, après notre quiz, vous aussi, vous aurez de sérieux doutes sur les connaissances soi-disant encyclopédiques de Stéphane. Historiquement vôtre, c'est parti.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est une spéciale, les grands mégalos de l'histoire cet après-midi. Mais avant de partir à la rencontre de ces gens charmants, on va écouter un garçon qui a su rester simple malgré son immense succès.
Stéphane, c'est David là. Hein.
Ah oui ? Ah ben pardon, un garçon qui a su rester simple tout court. Aujourd'hui, David, pourtant, cela ramène.
Non, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout.
Ça, c'est finement trouvé, oui.
Mais oui, je sais pas vraiment hein, s'il existe aujourd'hui des nourritures plus méprisées dans l'ensemble que les plats lyophilisés. C'est vraiment le contraire de ce que tout le monde respecte, hein, dans les villes du monde occidental en tout cas. Aujourd'hui, on aime l'authentique, le fait maison, les courges rares qu'on fait pousser dans des potagers associatifs
si possible,
sur les bords de la petite ceinture.
Plus voyez. La courge est moche, plus on l'aime.
Voilà, on aime les plats qui se méritent, qui respectent notre santé, les producteurs, les animaux, les enfants du futur. Et c'est très bien, et c'est très bien. Mais quelquefois, moi, je rêve que je vis pendant les 30 Glorieuses, ce moment suprême de l'optimisme industriel, ce moment où la nourriture lyophilisée, c'était le comble du cool et de la modernité, ce moment où on faisait des démonstrations de purée mousseline avec ses amis, comme aujourd'hui, on se la pète avec son nouvel iPhone, vous voyez. Et en hommage en ces temps, à ces temps d'insouciance coupable que je suis trop jeune pour avoir connu, eh bien, quelquefois, chez moi, tout seul, je me fais un plat lyophilisé.
Non, vous ?
Un hachis parmentier bolino, avec un verre de tang, des torsades napolitaines avec un escafé, et surtout, des nouilles ramen instantanées, qui se présentent toujours sous la forme d'un bloc de pâte rigide, ondulé comme une coiffure de fille des années... Pardon. J'étais un peu emporté par poésie.
La poésie vous emporte parfois très très loin, oui, David Castello-Lopez.
Je disais oui, qui se présente toujours, vous savez, sous la forme... C'est un bloc de pâte, mais c'est ondulé, voilà, comme une coiffure de fille des années folles, un petit peu.
Vous vous souvenez, les filles des années folles, j'ai les tant aimées.
Et il y a ce petit sachet de sauce sèche qu'on met par-dessus et qui, une fois qu'on a versé dessus l'eau bouillante, transforme vos nouilles neutres en nouilles au bœuf, au poulet, à la crevette, aux légumes du soleil. Et puis, un jour, il n'y a pas longtemps, je regardais le fond du bol et je me suis demandé, mais d'où ça vient les nouilles instantanées ? Bon, là, il n'y a pas de piège, hein, ça vient du Japon. Hein, voilà. Après la guerre au Japon, un peu comme partout, c'était pas la fête. Il y avait des grosses pénuries de nourriture bien relou. Et là est intervenu un monsieur avec un nom rigolo qui s'appelle Momofuku Ando.
Ça, c'était vrai que c'est amusant comme nom.
Ce que Momofuku raconte, c'est qu'un jour, il était dans les rues en ruine d'Osaka juste après la guerre et il a vu une longue file d'attente de gens devant un stand de nouilles. Et ces gens, ils devaient attendre longtemps parce que chaque portion de pâte prenait beaucoup de temps à cuire. Et lui, il s'est dit... fuck, je vais trouver une solution pour que ça aille plus vite.
Tu aurais été très américanisé.
Très américanisé déjà. Et cette solution, c'était de mettre des pâtes dans de la soupe chaude, de les sécher et puis de les frire très vite. Et ce qui se passe, c'est qu'en les faisant frire, petit pas de côté, je me suis rendu compte en écrivant cette phrase que le verbe frire n'a pas de participe présent.
Hein.
Comment as-tu obtenu cette super consistance dans ton poulet ? En le fritant, en le frisant, en le friant ? Eh ben non, on peut pas. Et c'est ce qu'on appelle en français un verbe défectif, c'est-à-dire un verbe qui ne se conjugue pas à tous les temps. Voilà, c'est mon petit intermède pivot. Ce qui se passe quand
il chasse sur vos terres, Stéphane.
Hein. Il a tout à fait raison, parce que c'est très giboyeux.
Ce qui se passe quand on frit les pâtes, c'est que ça fait des petites bulles à l'intérieur dans lesquelles l'eau bouillante, quand on les prépare ensuite, peut s'infiltrer facilement et les ramollir de l'intérieur très vite. Et donc, ça prend que 3 minutes à faire. L'invention de Momofuku, c'est quand même un des plus grands succès culinaires de l'histoire.
Bah oui.
Devinez combien de paquets de nouilles instantanées se sont vendus dans le monde en 2019.
Ah, 1 million ?
Non, beaucoup plus, Stéphane.
Pas du tout 1 million, non.
Non, pas
beaucoup,
du tout.
Infiniment plus que ça.
1 milliard.
105 milliards ?
Non, arrêtez.
Stéphane, c'est moi qui ai gagné quand même.
105, c'est quand même vous, là, vous juste prix qui avez gagné. Alors, il y a des disparités. Hein. En France, peut-être parce qu'on est un peu à cheval sur la gastronomie, on en mange en moyenne un paquet par an et par personne. Mais en Corée, par exemple, c'est un paquet par personne tous les 5 jours en moyenne. Oui. Vous voyez, donc, Momofuku, lui, il a créé un empire de la nouille instantanée. Il est devenu multimillionnaire. Il y a même un musée qui lui est consacré à Osaka, le musée Momofuku Ando, dans lequel il y a une statue en bronze de lui qui tient un bol de nouilles instantanées. Et aussi une reconstitution de la petite cabane dans laquelle il a fait ses premières expériences. Et dernière chose que j'aimerais évoquer, c'est un petit tips que m'a donné mon ami Mathieu Bonnet et qui a un peu changé mon existence. Bon, je dis un peu parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. C'est que les nouilles instantanées, eh bien, vous pouvez les manger sèches. Hein, je ne voudrais pas trop marcher sur les plates-bandes radiophoniques de Olivier Pouls, mais vous saupoudrez dessus une partie de la sauce sèche, pas la totalité, sinon c'est dégueulasse. Vous les cassez en petits morceaux et ça fait des super petits biscuits d'apéritif. J'étais sceptique, comme vous, je le vois dans vos yeux.
Ah oui.
Eh bien, essayez et venez me revoir.
On est plus que sceptique, on est absolument effaré et écœuré, n'est-ce pas, Stéphane ? Jamais vous ne croquerez
jamais
dans les ramen.
Je n'en croquerai pas.
Il n'en croquera pas.
Je vous emmène après
la semaine prochaine qu'il dit ça. Merci beaucoup, David Castello-Lopez.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Oui, alors vous le savez maintenant, c'est l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter.
Ah bah oui, ça j'ai bien compris.
C'est 2 heures pour découvrir 3 personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser, normalement.
Et aujourd'hui, dans la famille, il y a un point commun qu'on va découvrir aujourd'hui dans la famille Mégalo. Je demande le papa, un certain Tamerlan, chef de guerre turco-mongol, qui valait mieux pas trop chauffer, Stéphane, si j'ai bien compris.
Historiquement vôtre. Le récit.
Quand on pense aux mégalomanes, on pense assez vite aux grands conquérants comme Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon. Tous ceux qui se réveillent un bon matin avec la drôle d'envie d'aller conquérir la moitié de la planète. Dans cette grande famille des chefs de guerre assez sûrs d'eux-mêmes, il y a un nom qui fait encore frémir du Moyen-Orient à l'Asie centrale, Tamerlan. Ou plutôt Timur Lang ou Timur le Boiteux. Et si ce seul nom éveille des images de terreur et de conquête sanguinaire, c'est pour l'excellente raison qu'il a tout fait pour ça.
Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Tamerlan?
Ça commence dès la naissance. Hein, quand il naît en avril 1336, il y a près de 7 siècles, le petit Timur avait, en croire la légende, les poings fermés sur des caillots de sang. Avec un présage pareil, on n'était pas parti pour en faire un poète romantique, vous voyez, Jean. Et pourtant, Tamerlan n'est pas une brute sanguinaire, enfin, pas seulement. Même s'il a vécu une jeunesse rude et violente, c'est un jeune homme plutôt savant et cultivé, éduqué très jeune dans un double but. Combattre et répandre sa foi, celle des musulmans sunnites évidemment. Après quelques années à faire ses armes, Tamerlan prend le pouvoir en 1370 dans sa région natale, l'Ouzbékistan actuel. À 34 ans, son ambition est dévorante. Il rêve de marcher sur les traces de Gengis Khan en personne, le fondateur, vous savez, du plus vaste empire de tous les temps, l'Empire mongol. Et comme ça demande des moyens, Tamerlan va associer deux choses. La terreur pure d'un côté, le goût de la splendeur de l'autre, installé avec ses 18 épouses et ses 21 concubines à Samarcande, une capitale qui ne cessera jamais d'embellir. Rien que ce nom, Samarcande, ça fait rêver. C'est d'ailleurs pour l'une de ces 18 femmes, Bibi Khanoum. Oui, je sais, ça,
c'est un
ça peut vous paraître. Non, non, elle s'appelait vraiment Bibi Khanoum, c'est ridicule. Que Tamerlan fait construire l'une des plus grandes et des plus belles mosquées d'Asie centrale à Samarcande, couverte de céramique splendide. Pour construire l'ensemble, qui mesure 170 mètres de long, il a fallu 500 ouvriers, 200 architectes, maçons et artisans, et 95 éléphants indiens.
Il voyait grand à l'époque.
Et Tamerlan, c'est un cauchemar pour les artisans, parce que quand ça ne lui va pas, c'est le genre de client qui fait tout refaire, à commencer par ce qui deviendra son propre tombeau. En 1403, Tamerlan fait construire à Samarcande le mausolée de Gour Émir pour son petit-fils et successeur désigné, Muhammad Sultan, tué au combat. Mais lorsque le premier dôme fut achevé, Tamerlan trouve que c'est un petit peu petit. Alors, il fait tout casser pour en faire construire un autre, nettement plus grand, une splendeur qu'on peut toujours admirer aujourd'hui. Tamerlan lance pendant 30 ans une série d'expéditions meurtrières tous azimuts. Il forge un empire immense qui va de l'Inde à la Syrie, de l'Iran à l'Afghanistan et jusqu'aux confins de la Chine. C'est d'ailleurs au moment où il tourne son regard vers l'empire du milieu qu'il meurt de maladie en 1405 à 68 ans. Jusqu'à la fin, sa gigantesque envie de conquête sera restée inassouvie. Entre-temps, bon, le monde entier aura appris à connaître sa manière de faire, qui est finalement assez simple.
Ça consiste en quoi,
d'ailleurs? Vous voyez, Mathieu, vous massacrez tout ce qui bouge, vous réduisez en cendres tout ce qui ne bouge pas. Les seuls qui l'épargnent, ce sont les artistes, les lettrés, les savants. Tous ceux qui ont un quelconque talent et ils sont envoyés à Samarcande pour le servir, évidemment. Non seulement ça fait de la ville un des plus grands centres artistiques et intellectuels du monde, mais ça renforce la très haute idée que Tamerlan se fait de lui-même.
En même temps, quand on conquiert la moitié de l'Asie et du Moyen-Orient, on peut comprendre que ça donne un peu la grosse tête, Stéphane.
Ah, oui. Bon, Tamerlan était mégalo, assurément. S'il avait la grosse tête, il a surtout beaucoup découpé celle des autres, Mathieu. Je m'explique. Quand il s'agit de terrifier ses ennemis à grand renfort de cruauté, chacun a ses petites recettes, ses petites manies, si vous voulez.
Bien sûr.
Bon, Vlad Dracul, le prince de Valachie, qui a donné son nom à Dracula. Bon, il avait par exemple tendance à empaler ceux qu'il gonflait. Tamerlan, lui, sa petite manie, bah, c'est les pyramides de crâne.
Qu'est-ce que c'est les pyramides de crâne?
Bah, vous les empilez.
Mais quelle horreur.
Mais si vous les empilez pas en forme de pyramide, ça tient pas. Vous avez jamais essayé?
Oui, mais j'ai jamais essayé d'empiler des crânes, non, Stéphane? Ah oui. On n'a pas les mêmes hobbies. On n'a pas eu la même enfance, visiblement.
Moi, j'ai été éduqué à la méthode Tamerlan. Après avoir pris Alep, je plaisante évidemment, parce que des fois que.
On doit avoir des courriers. Oui. Stéphane Bern a-t-il tué des gens dans sa vie?
Jamais.
Non, jamais, vous le précisez, oui.
Bien sûr. Après avoir pris Alep en Syrie, Tamerlan a ainsi demandé à ses troupes de décapiter les 20 000 habitants avant d'empiler leurs têtes pour former des pyramides de plusieurs mètres de haut. À Ispahan,
il a encore franchi un cran dans l'horreur en ordonnant à chacun de ses officiers de lui ramener un certain quota de crâne. Quand l'armée de Tamerlan a fini par quitter la région, il y avait plus de 70 000 têtes entassées devant les murs de la ville. Mais son record, c'est quand même devant Bagdad.
Ah,
les secrétaires de son armée ont scrupuleusement recensé 120 tours de 750 têtes, soit 90 000 victimes, un record à battre. À la fin de son règne, on estime que le triste bilan de ses conquêtes se situe entre 1 et 17 millions de morts, ce qui laisse quand même une certaine marge d'erreur. 17 millions, c'est à peu près 5% de la population mondiale à l'époque, mais les conséquences meurtrières de la soif de conquête de Tamerlan ne se sont peut-être pas arrêtées avec sa mort.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Alors, mon cher Stéphane, vous avez laissé entendre que Tamerlan aurait continué de faire des dégâts après sa mort. Et c'est une idée qui risque de m'empêcher de dormir cette nuit.
Bon, je vous rassure, Mathieu, ça remonte à quelques décennies tout de même.
Ah oui, mais ça fait peur quand même.
À sa mort, la dépouille de Tamerlan a été enterrée dans un sarcophage au cœur du Gour Emir, le mausolée splendide de Samarcande, sous une épaisse dalle de jade noire. Sur cette dalle était gravée une malédiction lourde de menaces. Lorsque je reviendrai à la lumière du jour, le monde tremblera.
Donc je suppose que là, tout le monde s'est dit qu'il était impératif de surtout pas ouvrir ce truc, Stéphane.
Bah, bien sûr que non, Mathieu. Les scientifiques sont des gens curieux qui résistent rarement à l'envie d'ouvrir des boîtes.
Ne pas
bon,
ouvrir.
Là, en l'occurrence, c'est un sarcophage. Le 19 juin 1941, une équipe de scientifiques russes exhume la dépouille de Tamerlan.
Malheur.
Le squelette est bien celui d'un boiteux, mais aussi d'un homme bien bâti, assez grand pour son époque, avec une carrure à déménager des pianos. Bon, l'époque, en même temps, c'était pas tellement...
C'était pas son activité préférée. Non, effectivement.
Je vous l'ai dit, les savants russes ont ouvert la tombe le 19 juin 1941. Vous savez ce qui s'est passé en Russie, trois jours plus tard, dans la nuit du 22 juin 1941 ?
Je le sais, évidemment, mais je le préfère garder pour moi. Je n'aime pas étaler ma culture comme vous, Stéphane.
Bah, c'est pas ça, moi je cherche à informer nos auditeurs quand même.
Bien sûr.
Cette nuit-là, je vous rafraîchis la mémoire,
bien sûr.
Adolf Hitler a déclenché l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'attaque surprise de l'Union soviétique par les troupes de la Wehrmacht. C'est la plus grande opération militaire de tous les temps, avec plus de 4 millions de soldats lancés contre l'Union soviétique.
Bah, si je comprends bien, il ne faut jamais ouvrir les tombeaux avec des malédictions gravées dessus.
Disons que depuis, certains se disent que c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Si on croit aux malédictions, on peut dire que Tamerlan avait suffisamment le melon pour déclencher la plus grande bataille de l'histoire 600 ans après avoir cassé sa pipe. D'ailleurs, on a assez vite décidé de remettre Tamerlan dans sa tombe et de respecter scrupuleusement les rites musulmans.
C'était trop tard ça, Stéphane.
Oui et non, Mathieu, parce que le deuxième enterrement a eu lieu en novembre 42. Quelques jours avant la victoire russe de Stalingrad, l'un des grands tournants de la Seconde Guerre mondiale, comme quoi Tamerlan était tranquille.
Mais vous croyez vraiment à toutes les malédictions, Stéphane, vous, j'ai l'impression.
Oui, j'adore.
Vous adorez ça,
oui,
hein,
oui.
Ouais,
c'est...
Europe 1, historiquement vôtre.
Le terrible Tamerlan est-il à l'origine de l'expression grossière « Tamerla » ? On ne sait pas. Pour toutes les autres questions sur Tamerlan, nous avons invité un homme qui a suivi ses traces. Bonjour Alfred de Montesquieu.
Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane.
Bonjour, vous êtes... faut-il vous présenter, Alfred de Montesquieu ? Vous êtes écrivain et réalisateur. Vous avez écrit La Route de la Soie, coédité par Arte Éditions et les éditions du Chêne. Depuis de nombreuses années, vous parcourez comme reporter le Moyen-Orient, La Route de la Soie, une région qui vous passionne. Et en particulier, vous êtes allé sur les traces de Tamerlan. Quelle image il a gardée là-bas en Ouzbékistan ?
Oui, bah c'est assez amusant parce que c'est un peu l'antithèse de celle que vous présentez.
Ah, voilà.
On voit le fléau de Dieu, le successeur d'Attila, de Genghis Khan. Enfin
on insiste sur les cruautés.
Le tueur psychopathe. Eux voient un bâtisseur d'empire. Samarcande, c'est une merveille. Et surtout, c'est lui qui a unifié réellement l'Ouzbékistan. Et moi, j'ai interviewé un historien local assez important, Mourad Khan. Alors, je lui disais... Tamerlan, comme ça, hein. Et au bout d'un moment, il me dit, non mais arrêtez, c'est pas poli. Alors je commence à, c'est pas poli. Mais vraiment, il était furieux, vraiment vexé. Je lui dis, mais comment ça, c'est pas poli? Ça veut dire le boiteux. Je vous demande de l'appeler Amir Timur, le prince Timur. Et en fait, en Ouzbékistan, on l'appelle Amir Timur, le prince Timur.
Mais est-ce que le côté empileur de crâne, qui excite tellement Stéphane, il est réel ou il a été magnifié, amplifié par la légende?
Ah non, je pense qu'il est très réel.
Ah, il est très réel.
Ah oui, oui, oui. Alors, quand vous dites vénéré, il est réellement quasi vénéré. C'est-à-dire que Gouremir, le tombeau, les gens viennent en pèlerinage et ils viennent en priant. Alors, c'est un sanctuaire musulman, donc ils ne prient pas spécifiquement Tamerlan. Mais Tamerlan, son père, est le premier de sa famille à se convertir à l'islam. Avant, ils étaient jamaniques, tengristes, ils descendaient des tribus mongoles. Et c'est pas très clair si les gens prient, ils formulent une prière musulmane, mais c'est clairement aussi une prière un peu chamanique hein, quand ils vont dans le tombeau de Tamerlan. Mmh. Et soit dit en passant, c'est sublime, c'est la plus grande pierre en jade au monde, c'est le plus grand bloc de jade au monde. Donc le tombeau entier, c'est une roche de jade qui fait.
Et alors on se demandait avec Mathieu pour nos vacances si ça valait le coup d'aller à Samarcande.
Oui, moi j'ai découvert déjà que Samarcande existait toujours.
Oui, c'est, non, c'est sublime. Non, c'est sublime. C'est un des plus beaux endroits au monde. C'est un des plus beaux endroits au monde. C'est une des plus belles villes au monde. Non, vraiment. Vraiment. Et d'ailleurs, on peut en parler, mais le style timouride. Quand vous parliez tout à l'heure du fait qu'il tuait tout le monde sauf les artistes et qu'il les rapatriait. Mais l'ambassadeur espagnol qui est arrivé à Samarcande a décrit qu'il y avait 10 000 esclaves, 10 000 artistes esclaves, intellectuels, artistes. Donc il a fait en fait de Samarcande la ville monde. Quand vous rapatriez tous les artistes, tous les intellectuels, tous les artisans de Bagdad, d'Iran, d'Inde, de Russie, d'Anatolie, vous faites de Samarcande, si vous voulez, le melting pot.
Cela dit, il n'y avait pas les droits des intermittents à l'époque.
Il n'y avait pas Internet. Donc, faut vraiment imaginer, c'était le melting pot de l'époque. Et ça a créé un style unique. Et c'est le style timouride qui est sublime. Et pour vous donner une idée, l'arrière-petit-fils de Tamerlan, donc c'est le premier moghol, c'est l'empire du nord de l'Inde, enfin, c'est le Taj Mahal. Le Taj Mahal, c'est de style timouride. Donc, il y a du pour et du contre. Mais pour revenir sur la
psychopathe... Il y a beaucoup de pour, visiblement.
Hein, non, mais c'est aussi un gros psychopathe. Vous l'écrivez, parce que dans votre livre, vous évoquez René Groussel, l'auteur de L'Empire des Steppes, qui voit en Tamerlan un psychopathe, le paradigme du conquérant assoiffé de sang, pris d'une folie meurtrière inextinguible, un être pris par la cavalcade d'un cheval emballé que plus rien n'arrête sauf la mort. Ça, c'est son côté mégalo, là. Il entre dans notre catégorie, hein,
votre
ami.
Et René Grousset, donc, qui est un très grand historien et qui est résistant et qui écrit juste après la Seconde Guerre mondiale, donc évidemment, sa lecture des événements est teintée par ce qu'il vient de traverser. René Grousset a une espèce de clémence pour Gengis Khan, qui probablement en proportion a tué plus de monde. Hein. Mais il dit, bon, Gengis Khan, c'est un barbare. Il est sur sa lancée de guerrier nomade. Tamerlan, c'est pire parce qu'il a cette formule, il dit, il tue et il sait qu'il tue. Il est ce degré suprême de la violence, qui est la violence au service d'une idée. Il y a une jouissance de la tuerie.
En tout cas, on a très envie de lire votre livre.
Déjà, moi, je suis sur Booking avec Stéphane. On va à Samarcande. On cherche l'hôtel, le meilleur hôtel de Samarcande, là où on voit le bloc de jade. Moi, je veux la vue dessus, tout ça, petit déjeuner inclus. Hein.
Bon, déjà, lisez La Route de la Soie.
On l'emportera avec nous.
Coédité par Arte Éditions et les éditions du Chêne d'Alfred de Montesquieu. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Tamerlan, votre copain. Enfin, Gouremir. Non, Émir Timour.
Amir Timour. Mais vous insultez la mémoire de Tamerlan. Vous serez maudit sur cette génération,
je pense. Au chanteur de l'Eurovision, mon copain.
Oh, encore pire, il pense au chanteur de l'Eurovision. Chut.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe. Chaque après-midi, on prend trois personnages de l'histoire qu'a priori tout oppose et qui finissent par boire des coups ensemble tellement ils sont découverts de points communs. Aujourd'hui, ils sont tous mégalos.
C'est comme nous, Stéphane.
Oui, on
ne connaissait pas. Et puis on s'est découvert le point commun d'être mégalos et on boit des coups ensemble. Oui. Trait de caractère dont on ne pourra jamais taxer, en tout cas, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui au contraire a l'habitude de se faire toute petite afin de pouvoir plus facilement se faufiler pour nous dans les coulisses de l'histoire, Clémentine.
Ah oui, ça c'est tout à fait moi. Hein. Mais enfin, pour ce qui est d'empoisonner ou pas, vous savez, il y a un début à tout. Hein.
Non.
Alors aujourd'hui, je vous parle quand même d'un sacré bonhomme, un grand homme, hein, Clémenceau, mais qui avec son épouse a été absolument abject. Elle s'appelait Marie Plummer, elle était américaine, née en 1849, orpheline, et son oncle, un négociant prospère qui s'appelait Horace Taylor, l'élève et l'envoie dans une super école pour jeunes filles à Stamford, dans le Connecticut. Et là, parmi ses professeurs, elle a un jeune Français, bourré de charme, nommé Georges Clémenceau, un ardent républicain qui est venu aux États-Unis non seulement parce que l'Empire n'est pas sa tasse de thé, on est sous le Second Empire en France à ce moment-là, et puis en plus il a envie de voir comment fonctionne le système politique américain. Donc il est médecin de formation, Clémenceau, mais dans cette école de jeunes filles, il donne des cours de français, d'histoire et d'équitation, figurez-vous. Alors j'ignorais que...
Il était bon cavalier.
Ah ben je ne savais pas, Clémenceau était bon cavalier, en tout cas suffisamment pour donner des cours à des jeunes filles. Et Marie, à l'époque, a 17 ans, Clémenceau a 7 ans de plus qu'elle. Les jeunes gens tombent amoureux et ils se marient à New York. Mais pour être devenu un père de famille nombreuse, Georges n'en reste pas moins un incorrigible coureur de jupons qui accumule les maîtresses. Danseuses, actrices, femmes du monde, artistes, tout y passe. Vous voyez, par exemple, quand il convoite la jolie poétesse Anna de Noailles, il lui fait porter des œufs, hein. Prenez-en de la graine, mais c'est quand même un curieux cadeau d'amour. Hein. Alors il lui fait envoyer des œufs de poule assortis d'un petit poème. Alors le petit poème, vous faites ça souvent. Alors est-ce que vous l'assortissez d'un petit mot? Vous l'assortissez d'un petit mot comme ça, Stéphane, écoutez plutôt. De bons œufs à la coque, voici belle coquette, étant un très bon coq. Puis-je être la mouillette? C'est beau, hein? C'est la classe, vous envoyez ça.
C'est marrant. En plus.
La mouillette, c'est génial.
Chic. Vous rêvez d'être la mouillette,
non.
Stéphane.
Non. Mais non, mais c'est très vulgaire ce que vous dites.
C'est Clémenceau.
Non, mais c'est Clémenceau, mais c'est en effet
poétique.
Extrêmement vulgaire.
Alors,
évidemment, Marie finit par être au courant. Enfin, le sait, puis tout Paris est au courant. Tout alors, Paris, évidemment, c'est super classique. C'est comme Adèle Hugo avec Sainte-Beuve. C'est-à-dire qu'elle a un mari qui court partout et du coup, elle tombe amoureuse.
Elle se console.
Et bien, elle se console avec celui qu'elle a sous la main.
Et
bien là, c'est le précepteur de ses enfants, très classique, un certain Paul de Kercovan. Évidemment, elle tombe amoureuse de lui parce que lui, il est discret, il est tendre, il est gentil, il s'intéresse à elle, alors que l'autre court la gueuse H24, comme on dit aujourd'hui. Alors, le truc, c'est qu'il a beau tromper sa femme à tour de bras, Georges Clémenceau ne supporte pas l'idée de passer dans Paris pour un cocu, qu'on se fiche de lui. Vous savez, c'est comme la femme de César qui ne doit pas être soupçonnée. La femme de Clémenceau doit être irréprochable. Et donc, il fait un coup à la Clessinger, là. Avec non Biard, le peintre Biard qui va surprendre Léonie Biard et Victor Hugo dans leur meublé, et ben il fait pareil Clémenceau. Il va rue de Presbourg où le jeune précepteur avait loué une sorte de meublé. C'était simplement leur deuxième rendez-vous et il s'y pointe avec un commissaire de police et il fait arrêter sa femme Marie Plummer. Elle va faire 15 jours de prison parce que on est là dans les années 1890, donc c'est pas les mêmes peines que sous Victor Hugo 1847 où vous vous souvenez que Léonie Biard avait fait 3 mois de prison quand même. Mais enfin Marie Plummer fait 15 jours de prison. Pendant qu'elle est en prison, il obtient le divorce. Comme elle a la nationalité américaine, il obtient qu'elle soit expulsée parce qu'elle a une peine de droit commun. Donc, elle ne peut plus rester sur le territoire français. Donc, il la fait accompagner par 2 gendarmes jusqu'à Boulogne. Elle embarque en 3e classe dans un rafio hollandais pour retourner aux États-Unis.
Et les enfants?
Alors, les enfants, il les convoque. Il brûle toutes les lettres et toutes les photographies de Marie Plummer.
Mais quelle horreur!
Il se munit d'une masse et il détruit, mais dans une rage folle, le buste de Marie Plummer. Ça a été... Bon, ils ont quand même été mariés 23 ans. Hein. C'est parce que là, je vous raconte ça en 5 minutes. Donc, ça, c'est pas non plus... Il y a eu une vraie histoire entre eux qui a duré. Mais enfin, et quand elle meurt le 13 septembre 1922, dans une solitude totale, Clémenceau écrit ce petit mot à son frère. « Ton ex-belle-sœur a fini de souffrir. Aucun de ses enfants n'était là. Un rideau a tiré. » C'est d'une méchanceté, d'une dureté... D'un sinistre.
Là, je suis vraiment.
Vous êtes déçu. Hein.
Ah oui, déçu. Oui.
Et d'ailleurs, signe du destin, il est quand même mort. Vous savez, son appartement qu'on peut visiter,
oui.
Là,
qui est
un musée rue Franklin, c'est très intéressant à voir. Oui. Bah, c'était l'ancienne garçonnière de Robert de Montesquieu. Donc, il est quand même mort dans une ancienne garçonnière. Et c'est vrai que, vu le palmarès de Clémenceau, personne ne s'attendait à ce qu'il meure dans une cellule de moine en odeur de sainteté. Enfin, reconnaissez que là. Quand je vous disais, vous allez tomber de l'armoire,
c'est lui qui est tombé de bien haut, là.
Vous restez avec nous, Clémentine, évidemment, pour tester via le quiz la véracité des compétences que Stéphane avait mentionnées dans son CV. C'est l'heure du quiz.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Je n'ai pas envie de vous accabler d'avance, Stéphane. Non, évidemment,
non, parce que j'ai beaucoup gagné ces
derniers
temps.
Mais vous avez beaucoup gagné, vous êtes bon en histoire. Évidemment que vous connaissez plein de trucs et évidemment que vous pouvez gagner contre Clémentine.
Non, c'est vrai.
Non, c'est pas vrai, mais il faut bien que j'entretienne le suspense. Jouons à Burn to be Alive. Première question pour vous, Stéphane, qui c'est vrai gagner de plus en plus souvent. Il faut le reconnaître. Stéphane, Saddam Hussein, ça commence bien. J'aime bien quand la première question commence par Saddam Hussein. Saddam Hussein, qui nous a quittés il y a maintenant 14 ans, aimait beaucoup les chips Doritos. Vrai ou faux? C'est ma question, Stéphane. Elle nous plonge au cœur de l'histoire.
Non mais, est-ce qu'on peut isoler cette phrase que vous venez de dire? D'abord, je ne connais pas vos chips. Quels sont vos chips?
Bah, écoutez, c'est des trucs mexicains,
sur les
Stéphane.
Marques de chips, les Doritos, enfin. Stéphane, vous ne mangez pas des Doritos.
Quand on est chez
vous, il n'y a pas de Doritos à l'apéro.
Je crois me souvenir, si vous voulez, que... Parce que c'était un homme qui était très mal jugé, hein. Et...
C'est que... Réhabilitons. Et gratignons Clémenceau et réhabilitons Saddam Hussein. Vous avez raison, Stéphane. C'est dans l'air du temps.
Non, non, je plaisante, évidemment. Mais oui, c'est très possible. Il envoyait son avion chercher
des Doritos.
Des Doritos.
Ah, vous allez plus loin dans la réponse.
À Bagdad, c'est pas ce qu'on trouvait le plus. Hein.
Il envoyait un 767 pour ramener des Doritos.
Les Doritos bagdadi sont très réputés.
Donc, quelle est votre réponse?
Mais oui, il adorait les...
Vérifions tout de suite.
Vous avez...
Et voilà, dès qu'on est sur des vraies questions historiques, des thèmes mais étudiés à la Sorbonne, là tout de suite.
Vous êtes devenu fou,
mais Saddam Hussein, il mangeait régulièrement un paquet de Doritos taille familiale en moins de 10 minutes. Alors, vous ne voyez pas ce que c'est qu'un pack familial de Doritos, mais ça ne se mange pas en 10 minutes. Ou alors, vraiment, c'est qu'on est Saddam Hussein. Il aimait aussi se laver les mains de façon compulsive et le président Reagan, il aimait aussi, ce qui n'a aucun lien. Je ne sais pas ce que ça fout là.
Quasiment question... aussi, maintenant, je me lave les mains de façon compulsive.
Ah bah, maintenant, on en est tous
avec
là.
Avec les règles sanitaires.
On a tous une part de Saddam en nous. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Est-ce que Michel Foucault a pu voir en direct à la télé Michel Drucker recevant Whitney Houston et Gainsbourg, ce dernier prononçant son célèbre « I want to fuck her ». Oui ou non? Je parle bien du philosophe Michel Foucault.
Oui, hein. Oui, c'est encore un coup tordu. Je pense qu'il va être mort 2 jours avant ou 3 mois plus tard. Moi, il a bien sûr, il aurait tout à fait pu. Est-il mort dans la minute qui a précédé? Bon, je vais répondre oui.
Vous répondez oui?
Oui.
Vous avez... perdu.
Et non, quel dommage, Clémentine. Il est désolé pour vous. Entendez la sincérité dans la voix de Stéphane.
Ah non, mais la fan.
Oui, mais, alors,
mais c'est du fiel je qui n'aime dans
pas,
vos veines.
Je n'aime pas, vous le savez, ce rire fielleux.
C'est pas beau, hein.
Stéphane,
c'est
donc,
vraiment moche.
Vous allez,
je vous assure.
Non, non, alors
non.
Vous allez remettre
non,
en jeu votre premier point.
C'est moche,
non,
c'est
une décision que j'ai prise. Vous remettez en jeu votre premier point, vous devez me répondre.
Si vous faites ça, je ne joue plus pour tout le reste de l'année.
Alors attendez, vous me dites à combien d'années ça s'est joué? Sachant que le philosophe Michel Foucault est mort à 57 ans en 1984, qu'il n'ait pas pu voir Michel Drucker, Whitney Houston et Serge Gainsbourg.
Ça a pu jouer à 2 ans.
Ah oh, ça a pu jouer à 2 ans, c'est une bonne réponse de Stéphane. Ah, il conserve son point. Ah, il conserve son point. Non, non, on n'a pas un point en plus, il ne faut pas exagérer.
Ah non, mais je rêve. Je comprends ce que vous ressentez depuis le début, Stéphane. Mais c'est inique. C'est un scandale.
C'est la question numéro 3. Clémentine, on ne sait jamais, il peut perdre là. Alors, attention, c'est une question très longue, je me lance. Dans La mort d'Arthur, la compilation de romans sur la légende du roi Arthur, publiée pour la première fois en 1485 par le diplomate anglais William Caxton, il est écrit cette phrase prononcée par Galad. « D'après mes derniers renseignements, il serait tout à fait acceptable que le Graal ne soit ni un vase, ni une coupe, mais un récipient. » Ce qui, faut bien l'avouer, n'est pas terrible comme phrase. Vrai ou faux?
Faux.
Vous semblez bien sûr de vous, Stéphane. Parfois, j'ai du mal à savoir si c'est Stéphane Bern l'historien ou Stéphane Bern l'acteur.
Mais
c'est tellement mal écrit, ce que vous dites.
Oui, bien sûr, en 1400 et des brouettes, on n'aurait pas écrit une chose aussi mal formulée.
Eh bien, on embrasse Alexandre Astier, puisqu'effectivement, vous avez raison, c'est une mauvaise réponse. C'est une réplique de Kaamelott. C'est excellemment bien écrit. C'est de l'humour, Stéphane.
Oui, je sais, c'est de l'humour.
C'est pas un vase, un récipient.
C'est vrai que c'était très Kaamelott cette phrase.
C'est très Kaamelott, c'est pas vrai. Du tout.
C'est pas du tout 1485. Voilà. Oh, il a déjoué le
tous les pièges.
Clémentine.
C'est pas comme moi avec Élie et Dieudonné, là, je me suis fait avoir.
Mais non, Clémentine. La première personne que Mohamed Ali a mis KO, ce fut sa mère, il avait 2 ans, vrai ou faux?
Je dis non.
Vous dites
c'est
non?
Faux.
La femme qui a dit non.
Vous avez perdu.
Il a mis sa mère KO à 2 ans.
Il l'a raconté lui-même, Mohamed Ali. Il ne l'a pas fait exprès, évidemment, mais il a balancé une droite dans la joue de sa maman qui a perdu 2 dents pour l'occasion. Il a dit en interview, la première personne que j'ai mis KO, c'est ma mère.
À 2 ans, monsieur n'importe quoi.
Alors peut-être que ça contribue un peu à sa légende. Il en avait peut-être 3, mais il devait déjà avoir eu un sacré punch à cette époque-là. Qui remporte le quiz?
C'est Stéphane
Bern qui remporte ou vole le quiz. On ne sait pas trop comment le formuler, mais en tout cas, c'est une victoire.
Oui.
Elle comptera comme telle dans l'histoire.
Ouais. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il est l'animateur préféré des Français, le monsieur patrimoine du gouvernement. Vous êtes presque l'animateur préféré dans leur cœur, mais au fond, mais si. Il murmure à l'oreille du président et appelle la première dame Bibi.
Non.
Nous sommes donc réunis cet après-midi pour percer ce mystère. Comment se fait-il que Stéphane Bern, avec tout ce qu'il a accompli, n'ait pas encore chopé la grosse tête, alors que Tamerlan, un conquérant turco-mongol oublié du 14e siècle et qui puisait boiter, lui, oui. Moi, je comprends pas Stéphane et j'en profite pour vous dire bravo d'être si modeste.
Non, bon, merci Mathieu, mais tout est faux. C'est une spéciale mégalo aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, et après Tamerlan, je vais me pencher sur le cas de Jeanne d'Arc, qui prétendait quand même que Dieu lui parlait directement.
C'est vrai, quand on y pense, elle était peut-être tout simplement mégalo, Jeanne d'Arc. Vous, Dieu vous parle pas, Stéphane?
Jamais, ça ne s'est jamais produit.
Vous êtes sûr? Écoutez bien. Bernounou, ici Dieu. Bernounou, plutôt que de faire le pitre sur Europe 1, il faut bouter les félons hors de la République En Marche et restaurer l'autorité du président, ça part en cacahuète à la reine. Mais il faut agir discrètement. Pour l'heure, contente-toi de donner le sommaire de la deuxième heure de ton émission à la... d'historiquement vôtre.
Oh mon Dieu. Au programme, justement, de cette deuxième heure autour de nos personnages de l'histoire qui se la racontent, un homme qui nous raconte l'histoire des recettes, Olivier Pouls. Il nous parle du camembert.
Ça sent des jambons.
Et comme tous les jours, j'aurai le mot de la fin cet après-midi, vous saurez pourquoi on dit avoir un polichinelle dans le tiroir.
Parce qu'on attend un bébé, Stéphane, ça je le sais, mais on avait dit qu'on attendait que tu sois à 3 mois de grossesse pour le dire.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Les grands mégalos de l'histoire sont à l'honneur aujourd'hui. Or, être mégalo, c'est d'abord être persuadé d'avoir un destin unique. Par exemple, la dernière fois que Stéphane Bern, qui n'est pas du tout mégalo, a marché entouré de chèvres dans les vertes prairies du Perche, il s'est juste contenté de regarder le paysage.
Et ensuite, il a pissé.
Voilà, Jeanne d'Arc, elle, a entendu des voix. Et pas n'importe quelle, celle de Dieu en personne. Enfin, je crois, c'est pas tout à fait clair, mais c'est son histoire que nous raconte Stéphane Bern.
Historiquement vôtre. Le récit.
La mégalomanie peut prendre bien des formes, Mathieu. Vous en savez quelque chose? On l'a vu avec le conquérant Tamerlan, mais on pense pas forcément à une petite bergère lorraine de 13 ans. Et pourtant, quand on se penche sur l'histoire de Jeanne d'Arc, on est tout de même frappé par son culot. Un culot monumental.
Attention Stéphane, attention Jeanne d'Arc, les Français y sont très attachés, je sais que vous le premier.
Ah oui, absolument, moi j'ai un culte pour Jeanne d'Arc. C'est une sainte, il n'est pas question de lui enlever quoi que ce soit. Tout le monde connaît le destin hors du commun de Jeanne d'Arc, mais on ne devient pas le symbole qu'elle est devenue, y compris de son vivant, sans parfois, c'est vrai, avoir un peu le melon, vous voyez ce que je veux dire. Et ça commence dès 1424. Jeanne a 13 ans, elle vit en Lorraine, à Domrémy. La guerre de Cent Ans fait rage entre Français et Anglais. C'est long, c'est compliqué, la guerre de Cent Ans. Mais tout l'enjeu est de savoir qui est le souverain légitime du royaume de France. Charles VII, ce petit roi qui ne semble pas forcément très convaincu de sa propre légitimité, ou le puissant Henri V, roi d'Angleterre. Jeanne, en toute simplicité, décide un beau matin que c'est à elle, petite bergère de Lorraine, qu'il revient de libérer le royaume de France et de faire sacrer Charles VII à Reims. En 1424, je vous rappelle, ça fait 87 ans que la guerre de Cent Ans fait rage. Autant vous dire qu'il faut tout de même un certain culot pour expliquer qu'on va plier la question en deux temps, trois mouvements. Mais d'après Jeanne, la consigne vient de très haut, très haut.
De très haut, quand on dit de très haut, c'est de Dieu lui-même?
Alors, pas tout à fait, parce que Jeanne n'a jamais parlé d'un message transmis par Dieu lui-même. Ah. Les fameuses voix qu'elle dit avoir entendues, ce sont celles de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite et de l'archange Saint-Michel. Jeanne est tellement convaincue et convaincante que ça marche. À force de tanner le seigneur local, le sire de Baudricourt, Jeanne d'Arc finit par le persuader qu'elle est une authentique prophétesse. C'est lui qui finit par la faire escorter au printemps 1429 jusqu'à Chinon, où s'est installé Charles VII. L'histoire raconte souvent que c'est le moment où Jeanne repère le roi au milieu de la foule déguisé en courtisan. C'est malheureusement une légende, ça. Mais effectivement, Jeanne décroche bel et bien une sorte d'entretien d'embauche avec le roi. Seulement, elle n'y met pas franchement les formes. Au lieu de s'adresser à lui comme au roi de France, elle lui donne le titre de dauphin. Et ça, c'est une manière de souligner qu'il ne sera véritablement roi de France qu'après avoir été sacré à Reims, autrement dit avec son aide, puisque c'est la mission que les voix qu'elle a entendues lui ont confiée.
Mais ça, à l'époque, ça frôle l'outrecuidance de se comporter comme ça avec le roi.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui, bien sûr. Mais ça marche. Après avoir fait interroger Jeanne par une armée de théologiens, le roi lui confie une petite troupe pour ravitailler Orléans assiégé par les Anglais. Sur la route, Jeanne décide d'envoyer une lettre au nouveau roi d'Angleterre, Henri VI. Enfin, il a 8 ans, Henri VI. Du coup, la missive est surtout destinée à des officiers comme le duc de Bedford. Et le moins qu'on puisse dire, bah, c'est qu'elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, Mathieu.
Dites-nous, Stéphane.
Voici quelques lignes de cette lettre remise au goût du jour. Oui, parce que si je vous la lis dans sa forme du 15e, vous n'allez pas comprendre. Roi d'Angleterre, je suis ici envoyé de par Dieu, le roi du ciel, pour vous bouter hors de toute France. Je suis chef de guerre et si vos gens en France ne veulent obéir, je les ferai tous oxyre. Oxyre, ça veut dire tuer.
Oui, je vous en prie. Oui.
J'aime autant vous dire qu'il n'a pas dû s'en prendre souvent des soufflantes pareilles, le roi d'Angleterre. Le message rend les Anglais foudrage. Mais ce qui les rend encore plus dingues, c'est que Jeanne tient sa promesse. Orléans est libérée en mai 1429 et Jeanne est d'ailleurs au premier rang de plusieurs attaques avec son étendard blanc, son armure sur mesure et l'épée que lui a confiée le roi. Petit à petit, la domination anglaise se fissure, l'équilibre des forces commence à changer. Mais le triomphe de Jeanne, le moment où elle aura une vraie belle raison d'avoir la grosse tête, reste encore à venir.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Une question, Stéphane. Jeanne d'Arc peut-elle avoir encore plus le melon qu'elle ne l'a déjà à 13 ans? Visiblement, oui. À en croire son premier fan, vous Stéphane.
Non mais rappelez-vous Mathieu, dans les prophéties de Jeanne, il y avait plusieurs promesses. Libérer Orléans. Bon, ça c'est fait. Il reste donc à mener Charles VII à Reims, la ville du sacre des rois de France. Il y a eu des cérémonies ailleurs, mais symboliquement ça revient à donner une immense légitimité à Charles VII. Mais ce qu'on oublie, c'est que Reims se situe en territoire d'influence bourguignonne, autrement dit sur les terres du premier allié du roi d'Angleterre. Le roi hésite et pense d'abord à se faire sacrer à Orléans. Mais Jeanne ne lâche rien. Charles VII finit par décider de tenter la chevauchée vers Reims. Et Jeanne va jouer un rôle décisif devant les murailles de Troyes qui vient de renouveler son allégeance à l'Angleterre et refuse d'ouvrir ses portes au dauphin, enfin au roi. Jeanne tente alors un joli coup de bluff. Devant les portes de la ville, bien en évidence, elle fait amener son étendard et commence à mettre son armure. 2 mois après Orléans, sa réputation l'a précédée et les habitants commencent à trembler tellement fort que le 9 juillet 1429, Troyes dépose les armes. Autant dire que la guerre de Troyes n'a pas eu lieu. Une semaine plus tard, le 16 juillet, Charles VII est à Reims. Le lendemain, il est sacré avec Jeanne à ses côtés. C'est aussi un peu son sacre à elle. Et elle ne rate pas l'occasion de le souligner.
Ah, elle est forte en marketing aussi.
En rendant hommage à Charles VII, Jeanne lui dit « Gentil roi, or est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je vous amenasse en cette cité de Reims pour montrer que vous êtes vrai roi, celui auquel le royaume de France doit appartenir. » Bon, hélas, on connaît la suite. Hein. Oui. Jeanne a rempli son office, le soutien du roi se fait moins marquer. Capturée par les Bourguignons sous les murs de Compiègne, Jeanne, 19 ans à peine, est vendue aux Anglais qui la brûlent vive sur la place du vieux marché de Rouen le 30 mai 1431. Mais là où elle est, rien ne l'empêche d'avoir une haute idée d'elle-même puisqu'elle a été canonisée en 1920. Et ça, ça veut dire que non seulement elle avait quand même de bonnes raisons d'avoir la grosse tête, mais qu'elle a une belle auréole dessus pour l'éternité.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jeanne d'Arc, on entend des voix, nous aussi, mais je crois que c'est normal parce que notre invité est en ligne avec nous.
Bonjour Valérie Toureille.
Bonjour Stéphane Bern.
Vous êtes professeur, Valérie Toureille, vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université Cergy-Paris. Vous publiez une riche biographie de Jeanne d'Arc aux éditions Perrin à l'occasion du 100e anniversaire de sa canonisation par l'Église. Avec votre biographie, c'est un nouvel éclairage historique que vous souhaitez apporter. Est-ce qu'il y avait des éléments de la vie de Jeanne qu'on ne connaissait pas ou qui étaient restés dans l'ombre ?
Effectivement, on pourrait dire que certains éléments de sa vie étaient restés dans l'ombre. Et j'ai voulu, en fait, revenir au plus proche d'elle-même en partant des sources, des témoignages de tous ceux qui l'ont croisée, approchée. Et j'ai voulu, en fait, lui redonner corps, la replacer, en fait, dans un environnement à la fois familial et politique précis, celui de la guerre de Cent Ans.
Valérie Toué, on a classé Jeanne d'Arc dans les mégalos du jour, nos 3 mégalos, c'est le thème de l'émission, mais ça fait un peu de peine à Stéphane, visiblement. Est-ce qu'on a raison d'accoler ce mot mégalo à la personnalité de Jeanne d'Arc, ou c'est anachronique, exagéré, ou elle était animée d'autres choses ?
Bien sûr, je vous dirais que c'est anachronique, surtout pour les hommes et les femmes du Moyen-Âge. Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'elle se sent investie d'une mission, même si elle se sent aussi troublée dès le départ lorsqu'elle entend ses premières voix. Mais elle baigne, elle, dans un environnement politique favorable aux dauphins, dans cette période de chaos. Et en fait, elle appelle de toutes ses forces le retour à la paix. Et seul le dauphin y portera, au fond, cette force. Et c'est le seul à pouvoir résoudre ce conflit à ses yeux.
Mais elle avait une foi sincère. Je pense que c'était... Elle ne se prenait pas, elle, au sérieux. Elle se vivait peut-être comme l'instrument de la volonté divine.
Tout à fait, tout à fait. Elle se sent complètement investie par cette mission. Et c'est ça qui lui donne cette force.
Mmh. Moi, il y a quelque chose qui me fascine quand même avec Jeanne d'Arc, c'est comment elle a pu être crue, qu'elle se sente investie d'une mission, qu'elle entende des voix, pourquoi pas. Comment tout le monde a pu la suivre dans ce qui pourrait être un délire ?
Effectivement, c'est un mystère. Ce qui nous fascine toujours, c'est que des chefs de guerre aussi rudes et brutaux qu'on les connaît au Moyen-Âge aient pu être fascinés et emportés par le mouvement de Jeanne. Mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on voit très souvent des signes, on cherche à les interpréter, et le roi, comme les gens du peuple les plus simples, hein, croient à ce merveilleux, à cette part de divin qu'il côtoie au quotidien.
À partir du moment où elle se sent investie d'une mission sacrée, divine, et qu'elle est l'instrument de Dieu pour remettre Charles VII sur son trône légitime, est-ce qu'elle-même... Elle se voit petite ou elle se voit grande ? Je veux dire, est-ce que c'est légitime de considérer qu'elle se prend au sérieux ? Voilà.
Je pense effectivement qu'elle finit par être tellement investie de sa mission et de sa tâche qu'elle prend d'une certaine manière des assurances qui peuvent nous surprendre. Elle aime se vêtir de beaux vêtements comme les hommes de l'aristocratie. Elle aime les armes, elle parade à cheval. Donc c'est vrai qu'elle a complètement investi ce personnage.
Mais pour les besoins de sa mission, vous pensez qu'elle prend goût aux honneurs qu'on lui fait ?
Je pense.
Elle prend goût.
Je pense, mais on entre dans la psychologie,
oui,
c'est difficile d'aller plus loin.
Et Valérie Touré, en parlant de psychologie, est-ce que la question de savoir si Jeanne d'Arc avait été atteinte tout simplement de troubles psychiatriques a été posée ? Et est-ce qu'on a cherché ça, même à l'époque, certains se sont posé la question, ou pas du tout en fait ?
Non, pas du tout, pas à l'époque. Mais comme vous le savez, Jeanne a fasciné à travers les siècles, et on a cherché à une date récente, effectivement, à trouver, à percer ce mystère, des voix en particulier, et des psychiatres ont prétendu qu'elle pouvait souffrir de schizophrénie.
En tout cas, je renvoie Valérie Touré à la lecture de votre passionnante biographie qui vient de paraître sur Jeanne d'Arc aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, spécial les plus gros melons de l'histoire continue. C'est l'heure du portrait à 99% vrai de Mathieu Noël. Mathieu qui, je vous le confie chers auditeurs, est un peu palo à l'heure de nous parler de ce rappeur qui est un des plus gros melons de l'histoire de l'industrie du disque, à savoir Monsieur Booba.
Oh là là, que vous dites Stéphane, que vous dites ? Prenons des pincettes, Booba, melon, non, pamplemousse, clémentine, kiwi à la limite, mais melon, comme vous y allez. Je le précise d'emblée, c'est Stéphane hein, qui m'a dit dans les mégalos, faut que tu mettes Booba, faut que ça clash, faut que ça tweet, faut que ça buzz. Tant pis si tu te fais démonter la gueule à la sortie du studio.
Bah on fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Donc le duc de Boulogne note, s'il doit casser les œufs de quelqu'un, ce sont ceux de Stéphane, pas les miens.
Mais enfin, Mathieu, vous avez fait des milliers de portraits satiriques et là, on dirait que vous tremblez. Non. Moi, je le connais, Booba. Il est adorable.
Non, mais ça, Stéphane, c'est parce que vous connaissez Booba, l'autre.
Booba, Booba, mon petit ourson.
Là, je vais vous parler de Booba, le rappeur, qui n'est pas tout à fait aussi bonne poire. Même s'il se décrit comme un mec gentil avec un bon fond, il rajoute quand même au sujet de la fameuse rixe d'Orly avec son rival Caris.
Moi, comme dans la vie, j'aime pas me battre. Mais si tu me provoques gratuitement... Me fait un plaisir d'aller au clash. Et après, une fois que je suis dedans, eh ben, je suis en mode Terminator. Quoi.
En mode Terminator. Bon, alors, monsieur Booba, j'y vais. Par où je commence, tiens ?
Allez, Mathieu, un peu de nerf. Non, mais un peu de cran.
Mais oui.
99% vrai, c'est un portrait satirique. Oui. Envoyez les scuds.
Bon, mais ça arrive, soyez pas si impatients, Stéphane. Les scuds, bien sûr, mais merde, où est-ce que je les ai foutus, mes scuds ? Personne n'a vu mes scuds ? Ceux que j'utilise d'habitude avec Vianney, Christophe Maé, tous les gars de taille normale.
Oui.
Ah, ça y est, je les ai.
Prépare-toi, gros.
Ça va être ta fête. Booba, de son vrai nom, Eli Yaffa, est de l'avis général un des plus grands rappeurs français des années 2010, si ce n'est tout simplement, Stéphane, le meilleur. Certains détracteurs, des jaloux très certainement, lui reprochent un côté un brin mégalo. Ce à quoi il répond, poète...
Va te faire enculer.
Vous l'avez compris, j'adore Booba. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a conscience de sa valeur. Si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en vie, se demande-t-il assez humblement. À moins bien sûr que, inspiré par l'année qu'il a vécue aux États-Unis à Detroit, dans sa jeunesse, comme vous dites Stéphane, à moins qu'il n'ait compris en observant les rappeurs américains à quel point la mise en scène de soi est importante pour percer dans le rap game. D'ailleurs, dans rap game, il y a game qui signifie Stéphane.
Jeu.
Oh, on voit que vous avez vécu à Detroit, vous aussi. Clairement, pour moi, quelqu'un qui déclare « c'est pas que j'aime pas me mélanger, mais disons que les aigles volent pas avec les pigeons », c'est pas forcément un mégalo, plutôt un génie du marketing, une sorte de Cantona de la street. Car si aujourd'hui Booba, c'est une marque de vêtements streetwear, un parfum, une gamme de whisky, une web radio et même une chaîne de télévision, c'est d'abord à la base des textes assez brillants, encensés par exemple par Thomas Ravier, un auteur de la Nouvelle Revue Française, qui l'érige au rang d'écrivain, le comparant carrément à Céline et Arthaud. Thomas Ravier invente au passage le néologisme métagore, mélange de métaphore et de gore, pour qualifier l'usage que fait Booba des images. Des images dont la poésie, je suis sûr, pour vous séduire Stéphane.
Le réchauffement climatique, c'est dû à la chatte à ta mère, avec les fins de
la chatte 2, pas la chatte 1.
Écoutez, à la Nouvelle Revue Française, voilà, ils adorent, ils trouvent ça formidable. Vous ne serez pas étonné d'apprendre, Stéphane, que Booba cite la poésie en général et le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud en particulier comme l'une des choses l'ayant particulièrement marqué à l'école. Une école où, cela dit, il s'est, semble-t-il, plutôt ennuyé. Écoutez, l'école ne m'intéressait pas. Charlemagne, je m'en bats les couilles. Triangle isocèle, je m'en bats les couilles. Histoire géo, je m'en bats les couilles. Flûte, je m'en bats les couilles. Contrairement à vous, Stéphane,
mal, hein.
Qui prenait ça tellement au sérieux, la flûte. Et oui, vous l'avez compris, Booba aime provoquer. C'est ce qui fait le succès de son premier groupe, Lunatic. Il collabore ensuite avec Luc Besson sur la BO de Taxi 3, fait des chœurs pour Disney dans La Reine des Neiges, persuadé qu'il s'agit de l'histoire d'une petite princesse junkie accro à la coke. Il engrange en tout cas la confiance, commence à charrier les pionniers du rap français, estimant, je cite, que IAM, NTM, MC Solar, c'est de l'antiquité. Propos éminemment choquant, Stéphane, pour situer, c'est un peu comme si un journaliste recevait Akhenaton et Shuriken du groupe IAM et les confondait avec Joey Star et Kool Shen. Ma première question est beaucoup plus prosaïque. Quand vous avez créé NTM en 89...
Avant de répondre à la question, on n'a pas créé NTM, on a créé IAM.
Oui, ça c'est mon côté Booba, Stéphane. Je m'étais trompé. Booba qui très vite va monter son propre label Talak Records, dont il justifiera la création ainsi, je cite, « En fait, les portes, je ne les force pas, je dirais que j'ai créé mes propres portes. C'est-à-dire que je n'essaie plus de rentrer chez les Énergies, les Fun Radio, les Europe 1, ça ne m'intéresse pas, donc qu'est-ce que je fais? Je lance ma propre radio, c'est fini de frapper aux portes pourries, toc toc toc, j'ai passé l'âge, putain. Nous ?» Une porte pourrie? Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens.
La trouille, non?
Peut-être. Mais porte pourrie, viens si t'es un homme. À la réception, tu demandes Stéphane Bern, il a pris l'option Krav Maga au Club Med Gym, il va te rétamer ta petite face. C'est en tout cas ce qu'il vient de me dire hors antenne.
Non, 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 non.
Si, si, vous m'avez dit ça.
Je manque beaucoup de courage par rapport au
rappeur. Là, il va vous en falloir. Le duc de Boulogne n'enfonce pas les portes, il crée les portes dont il a la clé. C'est tout son génie. Son label est un succès, il devient une figure incontournable du hip-hop français, part vivre à Miami, mais revient de temps en temps pour nous offrir un album ou quelques propos fleuris sur ses collègues rappeurs. Rof, mon rap le terrasse depuis le début, c'est une sous-merde. Maître Gims, les yeux c'est le reflet de l'âme, je ne vois que le reflet d'un âne. Ou encore carrément Kanye West, je déteste, humainement, musicalement, c'est tout ce que je ne supporte pas, c'est incroyable d'être aussi nul. Fin de citation. Mais Booba, ce n'est pas que de la provoque gratuite, on en a parlé, hein, c'est aussi la capacité à répondre présent dans le monde réel, comme à Orly en août 2018, avec quelques amis à lui. Il tombe en plein shopping duty free sur son grand rival, le rappeur Kaaris, lui aussi accompagné de quelques amis. Ça fait beaucoup d'amis pour un résultat finalement assez inamical. Bilan, selon les commerçants de l'aéroport, plus de 800 000 euros de dégâts.
Ah oui.
Vous voyez Stéphane, comme disait Monsieur Booba, il n'aime pas se battre. D'ailleurs, on attend toujours son combat de boxe avec Kaaris qu'il avait annoncé. Mais faut pas trop le chercher non plus. Alors moi, je peux pas, je suis suisse. J'ai une exigence atavique de neutralité. Mais Stéphane, si vous voulez du buzz pour notre émission, il suffit d'insulter un peu Booba, il devrait très vite vous répondre sur les réseaux. Allez-y Stéphane, je sais que vous pouvez le faire. Prenez votre souffle, je vous mets un peu de rap pour vous mettre dans l'ambiance et allez-y. Envoyez votre plus belle insulte à Booba, faut que ça vienne des tripes.
Constipé.
Oh, c'est violent, Monsieur Booba. Voici l'adresse, Stéphane Bern, de rue des Cévennes, 75015 Paris. Son bureau, c'est 3e étage droite. Vous pouvez pas le rater, c'est là où il y a tous les posters de Kaaris. À bon entendeur. Voilà, il y a des gens dans le couloir.
Mais vous êtes pleutre, vous êtes lâche.
Oui, je suis pleutre
et lâche. Vous êtes un vendu.
Je suis un
vous
vendu.
M'avez...
désigné à la vindicte de Monsieur Booba, que je respecte infiniment.
Monsieur Booba, on est les seuls, je pense, à l'appeler Monsieur Booba.
Et qui a une langue châtiée. 99% vrai, donc il y a 1% de faux, si j'ai bien compté.
Mais vous n'aurez pas su le détecter ?
Oui, c'est quoi ?
Mais il n'a jamais travaillé avec Disney pour La Reine des Neiges. Il ne pensait pas que La Reine des Neiges, c'était l'histoire d'une junkie cocaïnée, Stéphane. Vous n'avez pas détecté ce petit point de détail de ma chronique ?
Non, pas du tout. Moi, je trouvais ça bien, ça le rachetait à mes yeux.
Ici Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'émission qui chérit vos neurones, vos zygomatiques et même vos délicates petites papilles. Stéphane a déjà mis sa serviette. Il est temps d'accueillir Olivier Pouls, un Belge qui était si mégalo qu'il est devenu français. Voici...
Papy de la Nation.
Ah, ça, c'est une énigme qu'il faudra percer un jour quand même. Vous êtes belge ou français?
Non, je suis belge. Et vous savez, on avait une blague en Belgique. On disait, vous savez, comment s'enrichir? Mais vous achetez un Français à la valeur qu'il vaut et vous le revendez à la valeur qu'il croit valoir.
Ah, c'est pas mal.
Mais alors que les Belges se foutent de la gueule des Français.
Bah, oui,
c'est donnant-donnant.
Oui. Mais par contre, pour la gastronomie, on vient assez facilement s'inspirer chez vous.
Pour la gastronomie, vous êtes souvent en France.
Oui, non, on mange bien en Belgique aussi, mais je dois bien reconnaître...
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un produit qui est typiquement français.
Bah, le camembert. Il n'y a pas plus français que le camembert. Encore que, je vais vous expliquer que malheureusement...
Il est menacé parce que oui, pasteurisation.
Pas de camembert pasteurisé.
Surtout le mot camembert, l'appellation camembert simple n'existe pas.
On peut faire du camembert à Marseille.
Il y a du camembert dans le monde entier. Il y a du camembert aux États-Unis, en Italie, ces trucs qui ressemblent à rien. Mais
c'est de Normandie.
Alors, il y a effectivement tout un débat. Il y a eu tout un débat qui a été tranché finalement et qui entrera en application l'année prochaine, en 2021. Donc, ce sera une appellation d'origine protégée de camembert de Normandie, effectivement, mais qui malheureusement va intégrer aussi des camemberts au lait pasteurisé. C'était le débat.
Mais Stéphane, vous pouvez faire quelque chose.
Non, mais là, je ne sais pas. J'ai rencontré la dame qui défend justement le patrimoine des fromages français.
Bonjour,
mais,
madame.
Rencontré, on a parlé de ça parce que ça la met en rogne. Mais c'est vrai qu'on devra acheter du camembert au lait cru de Normandie.
Oui, il faudra
Normandie.
Bien regarder sur la boîte qu'il soit mentionné lire. Camembert au lait cru. C'était le grand combat entre les industriels, Lactalis, pour ne pas les citer, qui font des camemberts au lait pasteurisés face aux petits résistants qui demeurent encore et qui font les meilleurs d'ailleurs des camemberts au lait cru. Alors le camembert, vous allez me dire, d'où il vient de camembert. Forcément. Alors dès le XVIe siècle, la région normande était réputée pour faire des bons fromages, mais l'idée de la recette du camembert, en réalité, elle est arrivée un petit peu plus tard. Alors la légende raconte que Marie et Jacques Harel, qui tenaient une ferme dans la région de Camembert, avaient accueilli chez eux un prêtre réfractaire, Jean-Charles Bonvoust, qui se cachait chez eux parce qu'il voulait échapper aux républicains. Il n'était pas très bien vu. Et le gars connaissait la recette d'un autre fromage qui était extrêmement célèbre déjà à l'époque, qui était le brie. Et il leur aurait donné la recette du brie qu'ils se sont mis à faire un camembert. Oui. Mais alors, en fait, le camembert serait une espèce de plagiat du brie, voyez-vous. C'est la même recette. C'est ce qu'on appelle un fromage à pâte molle et croûte fleurie. La recette est à peu près la même, si ce n'est que, bien évidemment, il y a une notion de terroir dans les fromages. Les vaches qui sont
elles
normandes.
Pas la même chose.
Exactement, elles ne mangent pas la même chose que dans la brie. Il y a un environnement aussi, une microflore qui fait que le goût du camembert n'est pas le goût du brie. Et ensuite, dans la famille, on s'est transmis de génération en génération cette recette. Le petit-fils Harel l'aurait fait goûter à Napoléon III, figurez-vous, qui l'adora et qui l'introduisit à Paris.
Et il a fallu attendre Napoléon III pour bouffer du calendrier.
Oui, parce qu'il y a eu le train, vous ne pouvez pas savoir à
quel
point
c'était long.
Le train a changé les habitudes.
Oui,
oui. Parce que les produits pouvaient enfin voyager et arriver à la table de l'empereur au palais des Tuileries.
Et est-ce Donc Louis XIV n'a jamais mangé de camembert?
Non. Il mangeait d'autres fromages. Mais est-ce que vous l'aimez fait, coulant, ou est-ce que vous l'aimez
à cœur?
Moi, j'aime quand il marche tout seul, qui sort de la table des plateaux de fromage.
Alors là aussi, il y a un débat, parce que les Normands, en Normandie, on mange plutôt le camembert plâtreux, alors qu'à Paris, on le mange coulant. Mais parce que c'est une question de tradition, le temps que les camemberts arrivent à Paris, ils étaient faits sur la route. Et donc, on avait une tradition de les manger plus coulants, alors que là-bas, on le mange plus frais, traditionnellement.
Mais c'est une hérésie.
Oui. Est-ce que vous voulez une petite recette pour ce soir facile et qui déboîte, comme on dit, avec un camembert? Alors, vous allez prendre un camembert pas trop fait, pour le coup. Un œuf, une cuillère à soupe de farine, deux cuillères à soupe de poudre de noix, une cuillère à soupe de chapelure et un peu d'huile. Et on va faire des petites croquettes de camembert. C'est hyper simple. Vous prenez votre camembert, vous en coupez des portions, vous le coupez en 8 par exemple. On fait ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. Donc on va passer les morceaux d'abord dans la farine, on tapote, on passe dans l'œuf battu et on passe dans cette chapelure mélangée avec de la poudre de noix. Et la noix et le camembert, ça marche divinement bien. Oui. Vous mélangez chapelure de pain avec la poudre de noix, vous passez ça là-dedans, et puis hop, dans l'huile bien chaude. Et donc vous allez voilà, frire ces petits morceaux, et vous avez la croûte avec le petit goût de noix qui croustille, oh là là. Et paf, à l'intérieur, le camembert qui vient couler dans la bouche. C'est
idéal,
pas beau, ça,
pour un premier rendez-vous, Stéphane. Musique douce, Barry White.
Il y a un truc aussi que j'adore, c'est le camembert au calva.
Ah ben, le camembert marche très bien avec la pomme et tous les dérivés de la pomme, et donc forcément le calva. Et pour accompagner votre camembert, un verre de cidre plutôt que du vin.
Délicieux.
Et on peut prendre un verre de calva
aussi, bien sûr, après.
Modération.
Avec beaucoup de modération. Merci beaucoup, Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr, y compris ces fabuleuses croquettes au camembert. Je vous invite à rester avec nous, car en tant que Belge, vous ne devez pas bien connaître notre langue française. Or, la rubrique qui suit est celle où Stéphane nous raconte l'origine d'un mot ou d'une expression. Restez, c'est gratuit.
Oui, je reste.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Comment notre émission spéciale Les Grands Mégalos de l'Histoire aurait-elle pu se conclure autrement que par une chronique de Stéphane Bern, notre champion de l'histoire? Non. Idole de chaque auditrice, modèle de chaque auditeur. Stéphane, chaque jour, vous nous dévoilez l'origine d'une expression bien connue. Aujourd'hui, une expression très imagée qui va nous rappeler les années René Coty. Époque rieuse d'avant la pilule, où il était fréquent de se retrouver avec un polichinelle dans le tiroir.
Oui, Mathieu, depuis le début de notre collaboration sur Europe 1, je me délecte de vos extraits de films que vous diffusez allègrement dans Historiquement Vôtre pour dynamiser l'émission. Et j'attends avec impatience le jour où vous diffuserez ce passage culte du Père Noël est une ordure. Ce moment plein de vie où Marianne Chazelle, alias Zézette, s'exclame « Moi qui t'ai polichinelle que j'ai dans le tiroir ». C'est vrai que cette expression est étonnante, avoir un polichinelle dans le tiroir.
Alors maintenant que vous le dites, Stéphane, on comprend effectivement pas trop bien ce que la marionnette vient faire là-dedans.
Eh bien, voyez-vous, mon cher Mathieu, l'explication nous vient d'Italie. Polichinelle vient d'un personnage bien connu dans la Commedia dell'arte que l'on appelait Pulcinella, un dérivé de Pulcino qui signifie poussin. Avoir un polichinelle dans le tiroir, c'est avoir un poussin, un bébé. Il y a, vous vous en doutez bien, mille façons d'annoncer un heureux événement. On connaît avoir des espérances, plus vulgaire, être en cloque.
C'est moche, ça, être en cloque.
Avoir la maladie de 9 mois, mais aussi en Angleterre, avoir une brioche dans le four. En Belgique,
moi,
on dit...
Moi, j'aurais pensé à autre chose.
Ça, c'est du côté de la Belgique aussi.
Qu'est-ce qu'on dit en Belgique?
Avoir son biscuit, mais...
Il sait tout faire, Zézette dans le Père Noël.
Et l'accent
belge.
Mon expression
Damien.
Préférée vient du grand, de l'immense, de l'unique Pierre Perret. Ah. Je le cite. « La seule fois que je n'ai pas dématé, au terme d'un assaut final, la mignonne fatalement fut lestée d'un petit moussaillon dans la cale. Avoir un moussaillon dans la cale, c'est magnifique, non ? »
C'est magnifique, c'est encore plus beau que le coup du polichinelle. Vous connaissez notre expression en belge, Pouls ? Vous cautionnez, c'est ça qu'on dit en Belgique ?
Je ne l'avais jamais entendu.
Vous ne savez pas, vous n'avez jamais mis une femme enceinte. Vous ne pouvez pas
vous
le savoir.
Vous n'avez pas un biscuit dans le four, ni...
J'en ai eu deux, hein, ma foi.
Historiquement votre spécial, les grands mégalos de l'histoire qui pensaient avoir été investis par la puissance divine touche à sa fin. Ah, tiens, un appel pour vous Stéphane, je vous le passe. Stéphane, ici Dieu. Simplement pour te rappeler que malgré les cartons d'audience et les coupes de télé 7 jours, il te faut rester humble, mon ver nounou. Et j'ai un message plus important pour toi, surtout. Ah, il n'avait plus de forfait. Tant pis Stéphane, dites-nous plutôt ce qui vous a le plus marqué dans notre émission du jour.
Oh mais plein de choses. Mais
vous en avez appris des trucs. Hein.
J'ai appris que Booba avait travaillé pour la Reine des Neiges.
Mais non, vous n'avez rien compris. Il a rien compris, c'était le 1% faux.
Mais c'est ce qui m'a beaucoup plu.
Ça vous aurait plu.
Oui, exactement. En tout cas, je fais attention maintenant. Il n'y a plus d'avion, je ne vais plus à Orly. Mais quand j'y vais maintenant...
Vous y pensez.
Je fais très attention.
Au Duty Free, vous faites attention.
Je fais attention, je me cache derrière les rayonnages pour éviter de croiser Oukaris ou Booba. C'est pas à peine de prendre une balle entre les deux.
On rappelle l'adresse d'Europe 1 si jamais Booba veut régler ses comptes avec Stéphane Bern. 2 rue des Cévennes.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre se termine maintenant, Mathieu.
C'est affreux, Stéphane. Je ne sais pas comment je vais survivre à votre absence. Hein.
Peut-être en vous disant qu'on se retrouve demain, de 16h à 18h, pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre.
Pas con, Stéphane, je me sens déjà mieux. Et qui croisera-t-on demain dans le studio Coluche ?
Le roi d'Angleterre, Édouard VIII. The Pope, le pape Benoît XVI.
Qu'est-ce qu'il vous prend ? Qu'est-ce qu'il lui prend ?
Et Jean-Pierre Pernaud.
Jean-Pierre Pernaud. Ça aura un sens ou bien vous avez joué à piquer collégramme pour les...
Bien sûr que ça a un sens.
Ah.
Il y a de l'édito dans cette émission. Demain, c'est une spéciale abdication d'émission. Ils ont claqué leur dème et ça fait du bruit.
Ah, laissez-moi deviner, vous ferez Édouard VIII et Benoît XVI et moi je ferai Pernaud.
Bien vu, Mathieu.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.